Alors donc je vais revenir sur les expériences que j'ai pu faire avec en complément de ce qu'a présenté déjà Pierre. C'est donc expérience auxquelles on a participé aussi Vincent Jolivet sur des premières tentatives d'acheter à partir des données qui ont été préparées par Pierre. Donc ça, je ne reviens pas sur la préparation d'un premier jeu de données d'entraînement, c'est ce dont il vient d'être question. J'en viens aux premiers entraînements. Donc comme pour la mise en page, comme je l'ai déjà montré rapidement tout à l'heure, les lignes d'écriture. Alors, il y a deux choses. Je vous ai montré celles prédites par le modèle par défaut de Kraken, ça marche plutôt pas mal, mais c'est surtout que celles dont on disposait dans les données d'entraînement pour jouer avec, pour l'instant, sont des lignes d'écriture prédites avec Transcribus. Et alors, Pierre a évoqué le problème du format. Il y a un autre problème qui est un problème de compatibilité potentiellement des lignes de l'identification des lignes de base entre Transcribus et Kraken. Les algorithmes de Transcribus positionnent ces baselines un peu plus haut, c'est-à-dire en général un peu dans la ligne d'écriture plutôt qu'à sa base, alors que les modèles de Kraken attendent plutôt une ligne qui soit un peu plus basse. Donc il y a un petit détail comme ça, mais qui peut compliquer la compatibilité entre les deux outils. Et l'autre difficulté méthodologique qu'on a eue pour faire ces entraînements, elle tient à la transcription qui, comme on l'a dit, est une transcription normalisée avec abréviation résolue, qui a été, si on peut dire, rétro-alignée a posteriori avec la source. Alors, ce qui était vraiment très bien, parce que ça nous a permis d'avoir des données sur lesquelles entraîner des modèles. C'est un, comment dire, un fonctionnement assez fréquent dans les projets d'HTR, c'est des données qui préexistent et d'essayer de les rétro-aligner pour avoir plus facilement de la donnée d'entraînement, qui est toujours le goulot d'étranglement de ce type de projet. Par exemple, dans le cas du projet Imanis, c'est comme ça qu'ils ont procédé en réalignant des éditions avec des sources. Mais c'est effectivement alors souvent un peu plus loin de la source qu'une transcription plus imitative à nouveau frais. Alors voilà, donc pour les résultats d'abord de mise en page, puis ensuite d'HTR. Donc sur la mise en page, je vous ai déjà montré rapidement tout à l'heure le résultat de détection des lignes avec le modèle par défaut entraîné sur les données CBAD. Alors les données CBAD sont des données qui sont librement disponibles en ligne, qui ont été fournies dans le cadre d'une compétition de détection de lignes de base dans le cadre des conférences IGDAR, qui sont des conférences annuelles sur l'analyse de documents, dans lesquelles sont organisées régulièrement des compétitions où on fournit un jeu de données et puis des gens viennent présenter leurs algorithmes qui testent sur ces jeux de données, puis que le meilleur gagne. Et ensuite, ça fait des jeux de données qui peuvent être réutilisés librement dans de nombreux contextes. Donc là, c'est un jeu de données sur les lignes de base, sur les baselines. Et qui ont été utilisés notamment pour entraîner le modèle par défaut disponible dans eScriptorium. Alors on peut zoomer un petit peu pour voir plus en détail. Donc vous voyez que les lignes sont plutôt bien détectées. Il y a peut-être un petit peu de bruit par endroit et encore. Il y a une erreur ici, en bas de la page, où comme on a une vue sur une page de gauche et de droite, pas une page unique, eh bien, il y a une des lignes qui a été vue comme allant de la page de gauche à la page de droite, une confusion entre une ligne de la page de gauche et puis une ligne marginale de la page de droite. Ça fait une erreur. Il y a une petite erreur ici entre deux colonnes différentes, toujours pour des questions de proximité de ligne, mais globalement, c'est plutôt bon, y compris pour des annotations interlinéaires qui ont bien été reconnues comme des lignes distinctes. On en voit par endroit. Grosso modo, le problème qu'il y a, qui est ponctuel, c'est simplement quand deux lignes distinctes sont trop proches, voire se touchent, le modèle a du mal à les distinguer comme faisant partie de deux lignes différentes. C'est le même problème que ce qu'on pourra rencontrer éventuellement pour des zones, si on essaye d'entraîner sur des zones qui se touchent, comme ça peut être le cas ici. Et bien, si deux zones sont en contact ou sont superposées en partie, ça va être difficile pour un modèle de les considérer comme étant deux zones différentes. Alors sur l'entraînement d'HTR, comment est-ce qu'on a procédé? Donc la première étape, ça a été de convertir les images en niveau de grille et en format PNG, et en réduisant un petit peu leur taille. Pourquoi en niveau de grille? Alors jusqu'à récemment, pour ce qui était de l'HTR, on binarisait, c'est-à-dire que chaque pixel devenait soit un pixel blanc, soit un pixel noir, et c'est cette distinction de base qui servait au réseau à reconnaître le texte. Maintenant, on a des modèles un peu plus gros un peu plus complexes qui acceptent des niveaux de gris. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte plus d'informations en entrée et potentiellement ça veut dire qu'on va pouvoir traiter plus d'informations sur la source et donc avoir des meilleurs résultats. On n'est pas forcément encore au modèle utilisant la couleur, encore la phase, le cran au-dessus en termes de quantité d'informations à traiter, mais avec les niveaux de gris, on obtient des bons résultats. Donc, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on partage entre données d'entraînement et données de validation, donc données de test, celles qui ne seront pas montrées au modèle, sur lesquelles on va évaluer les résultats. Donc, on a pu entraîner sur 26 vues et tester ensuite sur 2 vues. Donc, j'ai mis de côté les vues 2 et 10 pour tester. Alors, plutôt que de partir de zéro, vu qu'on n'avait que peu de données, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un modèle préexistant que j'ai surentraîné sur ces données spécifiques. Donc, je suis parti d'un modèle que j'avais sous la main, j'en ai pas tant que ça non plus, donc j'ai pris ce qui était le plus proche, même si c'est critiquable sans doute à pas mal de termes. Donc, un modèle entraîné par Daniel Stöckl, Simon Gabay et Benedetta Salvati sur la transcription par Benedetta d'un manuscrit français, manuscrit d'Arras, Bibliothèque municipale 187, que vous voyez ici, qui est une écriture cursive, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, vu que je n'avais pas forcément d'autres modèles de cursive en stock. Mais vous voyez que c'est pas tout à fait, déjà c'est pas la même langue, tout bêtement, c'est pas tout à fait le même type d'écriture non plus, et c'est pas abrégé de la même manière. Donc c'est la transcription elle-même était transcription qui retenait les signes abréviatifs. Donc on parle de quelque chose de quand même assez différent et qu'on va essayer de régler, si j'ose dire, sur de nouvelles transcriptions. Je vais dézoomer un petit peu. Alors voilà la courbe d'entraînement, l'évaluation du taux d'erreur caractère au fur et à mesure des itérations d'entraînement. Donc là, on va parler non pas en itération, en 1000 itérations, mais en époque. Une époque, c'est un passage sur toutes les données. Donc en général, ça équivaut à quelques milliers d'itérations. C'est un entraînement qui peut être assez long, comme ça a déjà été évoqué par Pierre tout à l'heure. Donc là, j'ai fait tourner ça sur un serveur avec une carte graphique. Donc, ce qui permet d'aller plus vite, de réaliser beaucoup d'opérations, mais ça prend quand même au moins 1 heure, voire un peu plus, pour faire quelques 80 époques comme on a fait ici. Et donc, vous voyez l'évolution du taux d'erreur caractère au fur et à mesure des itérations et des époques d'entraînement. Quand on part avec quasiment aucune adaptation, le modèle préexistant, il fait 40% d'erreurs. Donc, il se trompe quasiment sur un caractère sur deux. Il est un petit peu meilleur que ça, mais pas beaucoup. Et puis, il va progresser. Et ensuite, il plafonne ici à 20% d'erreur. Alors, au début, je n'avais pas regardé en détail les données. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on plafonne à 20% d'erreur? On devrait pouvoir aller en dessous. On arrive assez facilement maintenant à 15% ou 10% d'erreur. Puis ensuite, c'est bien sûr à cause de la difficulté de la tâche, type d'écriture et puis de la transcription qu'on a fournie. Alors, quels sont plus en détail les résultats qu'on a obtenus? Alors, on arrive à 82,75% de précision, d'exactitude pour le meilleur modèle, donc un peu moins de 20% d'erreurs. Et quels sont les types d'erreurs les plus fréquentes? Alors, assez souvent, dans les manuscrits, l'erreur la plus fréquente, c'est vu, elles sont sur l'espacement. Prédiction d'un espace quand il n'y en a pas dans les données sources ou absence d'espace quand il y en a un dans les données sources. Là, ce n'est pas le cas, l'espace arrive un peu après. Ce qui est le plus fréquent, ce sont des lettres qui sont ratées. À quoi ça correspond? Ça correspond en fait à des abréviations qui n'ont pas été résolues. Donc, à soit des signes abréviatifs qui ont été ratés par le modèle, soit qui n'ont pas été résolus. Et donc, finalement, ils ratent des lettres qui sont présentes dans la transcription, comme I, E, T, N, et ainsi de suite. Alors, on peut venir à une évaluation plus qualitative par inspection directe. Donc, voilà le résultat sur la vue 2. Des données. On va pas regarder tout en détail, mais si on regarde de près, on voit que c'est pas si mauvais que ça. Il y a des choses qui ont l'air de faire sens. Et puis d'autres dans lesquelles on voit qu'il y a clairement des erreurs. Par exemple, dem vitravunt, a priori, n'est pas un mot latin, contrairement à clerici. Donc là, il y a probablement quelque chose de faux à cet endroit-là. Et on peut presque parfois corriger les erreurs. Pardon, c'est mon téléphone qui sonne. Alors, pardon, j'en viens à la dernière diapositive. Hop. Inspection sur deux lignes cette fois-ci, simplement pour regarder plus en détail le résultat. Alors, j'ai été pour ma part très agréablement étonné de la capacité du modèle à résoudre les abréviations. Ça m'a vraiment, vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y arrive aussi bien. On voit que Predicto, bah, il sait le résoudre parce que forcément, ça doit revenir assez régulièrement dans les données. Alors parfois, Mercury, c'est plutôt bien réussi aussi. Alors parfois, pas toujours. Par exemple, le PT tilde résolu en prêt, c'est probablement une confusion avec le P avec barre au-dessus qui peut vouloir dire prêt. Donc c'est pour ça que c'est résolu de cette manière-là. Parce que le même signe peut avoir différentes significations ici. Sans parler du mot qui suit, là où c'était assez raté. Ioannis, c'est plutôt bon. Et puis voilà, il y a parfois quand même des erreurs. Donc le Dominis ici n'est pas bien, sans parler du cap tilde à la fin. Puis on a parfois des erreurs qui sont des erreurs que l'humain pourrait faire aussi entre U, V, M, N, sur le nombre de jambages, sur la distinction M, N, et ainsi de suite. Par exemple, sur le premier mot de la ligne suivante. Voilà, donc ça c'est les deux types d'erreurs qu'on peut rencontrer dans cette prédiction, et qui finalement pas si mauvaise que ça. Bien sûr, donc là c'est simplement des tests très préliminaires, il faudra voir avec plus de données, et puis ensuite selon les choix qui sont faits, de quel type de modèle on veut faire, est-ce qu'on veut faire des modèles qui normalisent, ou est-ce qu'on veut retranscrire pour faire des modèles plus imitatifs, donc ça c'est aussi un choix à faire, est-ce qu'on veut tester les deux, enfin il reste plein de pistes à explorer. Voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus.